Salut, c'est Philippe Lachaud. Bienvenue sur Just for Fun.
Bonsoir à tous, il est 21h, vous êtes sur Just for Fun dans l'émission En tête à tête avec. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'émission et aujourd'hui pour commencer cette nouvelle saison, j'ai l'immense plaisir de recevoir un homme. Il a fait ses premiers pas au théâtre lorsqu'il était au collège à 14 ans, il incarnait le rôle d'Alex dans la série Nos chers voisins sur TF1, il est actuellement au théâtre aux côtés de Marianne Chazelle et de Régis Laspalès dans La famille et le potager. Jean-Baptiste Chelmerdine, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bonsoir même, puisqu'il est 21h.
Oui. Et bien, je suis très content de vous recevoir dans cette émission.
Ben, moi aussi, je suis content d'être là.
Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Et donc, comme je le disais avant, vous êtes comédien. Comment est-ce que vous êtes entré dans le monde du cinéma ?
Alors, comment je suis rentré ? En fait, j'ai fait des cours de théâtre. Ensuite, je me suis inscrit... Ouais, parallèlement, je me suis inscrit dans des agences de pub parce qu'une pote faisait des pubs et gagnait bien sa vie. Donc, elle m'a dit, mais franchement, inscris-toi. Et j'ai commencé donc à faire de la pub. Et au fur et à mesure, j'ai bifurqué vers la fiction. Et de petit rôle en petit rôle, les rôles ont de plus en plus grandi. On m'a donné ma chance au fur et à mesure pour des trucs plus importants. Jusqu'à ce que je sois dans Platane de Éric Judor et dans Nos chers voisins. Voilà. Mais c'était plus de la télé. Et en fait, en cinéma, j'ai juste fait genre deux films. J'ai fait un film où j'avais une journée. Puis après, j'ai fait le film d'Éric et Ramzy qui s'appelait « À la police d'État ». Et c'est là qu'Éric m'a découvert. Et c'est à la suite de ça qu'il m'a proposé d'être son assistant dans Platane la première saison.
Et est-ce que c'est un métier que vous vouliez déjà faire quand vous étiez enfant ou pas du tout ?
Oui, franchement, oui. J'y ai pensé, je pense, au début de l'adolescence. En fait, ce qui m'a donné le déclic, c'est qu'un jour à la télé, j'ai vu La cage aux folles et j'ai tellement ri pendant une scène, j'ai tellement ri que je me suis surpris. Enfin, ça m'a fait comme un déclic. Je me suis dit, c'est pas possible d'être drôle comme ça. Et c'est comme si, en même temps, j'avais compris que je pourrais peut-être faire un truc... Je ne me compare pas à Michel Serrault dans La cage aux folles, mais vraiment, en même temps, je crois que j'ai compris que c'est ce que je voulais faire, en fait. C'est faire rire et être comédien et surtout faire rire, parce que j'aime bien faire rire.
Et donc, au collège, à 14 ans, vous faisiez des cours de théâtre ?
En fait, on a eu le prof de musique de l'époque... qui nous avait proposé de monter une comédie musicale. Moi, je chantais pas dedans, mais de monter une comédie musicale qu'il avait déjà montée avec d'autres élèves, un truc qu'ils avaient écrit. Et du coup, on a dit OK, et on a fait plusieurs représentations dans un vrai théâtre. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ah bah oui, donc c'est moi, j'aime vraiment bien. Et puis j'ai eu des retours de potes qui m'ont dit franchement, c'était bien et tout. Donc je pense que voilà, le verre était dans le fruit.
Et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre métier au cinéma et à la télévision ?
Alors, en ce moment, je suis plutôt au théâtre. Oui. Donc, de toute façon, c'est un peu la même chose. C'est quand même le même métier, même si ça demande des compétences particulières en fonction de ce qu'on fait, que ce soit sur scène ou devant une caméra. Qu'est-ce qui me plaît ? J'aime bien être... j'aime bien, je crois... analyser la psychologie d'un personnage par rapport à ce que j'ai pu voir des gens dans la vie. C'est-à-dire que je chope des choses que j'ai vues dans ma vie au cours de ou chez les gens qui sont vraiment autour de moi ou dehors dans une queue au cinéma ou en terrasse de café. Et ce qui m'intéresse, c'est de réinjecter ces choses-là dans des personnages qu'on me propose de jouer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et j'aime vraiment fouiller le personnage, la psychologie du personnage et voir ce qui est logique, ce qui n'est pas logique, parce que ce n'est pas toujours logique. Dans l'écriture d'un personnage, ce n'est pas toujours logique. Et moi, je suis hyper au taquet sur ce qui est logique psychologiquement chez quelqu'un, de faire ou de penser ou de dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse dans mon métier. C'est d'analyser un personnage quoi et de le jouer.
Comment vous les préparez, les rôles, avant de les jouer au théâtre ou au cinéma ou à la télévision?
Bah, je vous dis, j'analyse vraiment, bah, je les lis, il faut lire plein de fois le texte, et ensuite sortent des sortes de qualités ou de défauts qui sont majoritaires chez ce personnage. Et déjà, je note ce qui n'est pas logique, parce que vraiment, c'est important pour qu'un personnage marche, il faut qu'il soit logique tout le temps. Même s'il est timbré, hein, je veux dire, on peut, il faut que dans la logique du timbré, ce soit logique, quoi. Bon. Et donc, ce que je fais, je le lis beaucoup, et puis j'analyse. Et ensuite, il faut apprendre le texte, c'est en apprenant. D'abord qu'on trouve d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut improviser un peu et nourrir le personnage. Et puis, c'est en connaissant bien le texte, que ce soit à la télé ou au théâtre ou au cinéma, c'est en connaissant bien le texte qu'on peut se libérer et du coup vraiment atteindre quelque chose d'un peu impalpable dans un personnage. Parce qu'on n'est plus à ce moment-là dans un truc scolaire, on a intégré le personnage en connaissant le texte qu'il doit dire.
Alors, il y a une partie de vous que l'on connaît moins. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous avez une page SoundCloud où sur celle-ci, vous postez vos compositions, vos musiques. Nous en parlerons tout à l'heure dans la suite de cette émission. Et donc, c'est vous qui allez choisir les musiques de cette émission. Quelle est la première musique que vous avez choisie?
Alors, je vais choisir dans l'ordre chronologique de ce que j'ai enregistré. Je vais choisir une reprise que j'avais fait de Lenny Kravitz qui s'appelle Are You Gonna Go My Way. Et en fait, en écoutant cette chanson, j'étais en Irlande il y a longtemps et j'étais en vacances et je suis tombé. Enfin, à l'époque où j'ai entendu cette chanson, vous savez, il y a des époques où même si c'est pas l'époque où ça sort, il y a des époques où on tout d'un coup, on achète, à l'époque, on achetait le CD ou alors on chope le MP3 et on écoute. Et en fait, j'étais tombé devant un groupe de folk dans la rue en Irlande et je m'étais dit, putain, cette chanson de Lenny Kravitz qui parle de Jésus, en fait, c'est bizarre qu'il l'ait fait en rock'n'roll parce que c'est un truc de hippie. Et du coup, j'ai voulu faire une reprise en mode hippie. Voilà. Donc, je l'ai faite et je l'ai fait masteriser et tout. Et donc voilà.
Eh bien, cette chanson, nous allons la découvrir tous ensemble sur Just for Fun et cette émission continue juste après une pause musicale. À tout de suite. I was born long ago. I am the truth and I'm the one. Save the day, and I won't leave until I'm done. So that's why you've got to try. You've got to breathe and have some fun. To breathe and have some fun. Though I'm not paid, though I'm not paid. I play this game, I play this game, and I won't stop until I'm done. I don't know why we always cry. This we must leave and get it done. This we must leave and get done. We must engage and rearrange and turn this planet back to one. So tell me why we've gotta die and kill each other one by one. We've got to love and a rubber duck. We've got to dance and be alone. Are you gonna go my way? And I got to know. How you gonna go my way? How you gonna go my way? Nous sommes de retour sur Just for Fun, vous êtes toujours dans l'émission En tête à tête avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Baptiste Chelmerdine. Ça va toujours, Jean-Baptiste ?
Très bien.
Alors, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler plus de nos chers voisins. Comment est-ce qu'elle a débuté cette aventure pour vous ?
Elle a débuté par un casting. Donc, j'ai fait un casting. Après, j'étais en option. En option, ça veut dire qu'on est, genre 5. Il y avait, je sais pas, peut-être 30 comédiens qu'ils ont vus. Et à la fin, on n'est plus que 5. Les 5 plus, qui correspondent le plus au rôle. Et pour cette option, il y avait Issa qui était déjà choisi, qui nous faisait passer le casting, enfin, pour qu'on fasse le sketch avec lui. Et du coup, ça s'est bien passé. Et puis voilà, après j'ai eu le rôle en fait. J'ai eu le rôle et du coup on a commencé, on s'est tous vus. En fait, moi j'ai pris rendez-vous avec Joy qui jouait Chloé et Issa. On s'est donné rendez-vous dans un café pour se rencontrer avant parce qu'on avait plein de sketchs en commun et il fallait qu'on soit potes, quoi. Il fallait qu'on se connaisse un peu pour arriver sur le tournage en s'étant déjà découvert. Et donc on a pris un café, on s'est un peu raconté nos vies et ensuite on a été un peu plus tard, on a été rejoindre tous les autres un autre jour pour faire des lectures et pour se découvrir aussi tous les voisins. Et c'est là qu'on a vu Martha Lamotte, etc., tous les potes. Et on a découvert les premiers textes et on a compris ce que ça allait être en termes de travail. Parce que déjà, on avait les textes au dernier moment et surtout, on s'est rendu compte qu'on avait 10 sketchs par jour. Et donc, il fallait apprendre genre 20 pages par jour, ce qui était beaucoup, quoi. Et surtout, comme c'est de la comédie, c'est pas... Il faut être au taquet, il y a toujours la comédie, ça demande un vrai travail de rythme et de chorégraphie presque pour que ça marche. Donc voilà, on s'est rendu compte très vite que ce serait un vrai travail, mais on s'est tous entendus très très vite aussi, et donc voilà, c'était cool.
Comment est-ce qu'il se passait les tournages ?
Alors on venait nous chercher chez nous à genre 7h30. Ça dépendait si on habitait loin ou pas, mais c'était genre 7h30. On allait à Saint-Ouen, c'était dans des studios, on arrivait vers 8h, on se maquillait, non, on s'habillait, on se faisait maquiller et coiffer, et en même temps on faisait ce qu'on appelle des italiennes, c'est-à-dire on dit le texte, on répète le texte ensemble, mais sans le jouer vraiment, juste pour que le texte soit, que tous les mots soient là. Et ensuite on arrivait sur le plateau de tournage à 9h, et on faisait ce qu'on appelle une mise en place, c'est-à-dire qu'on se mettait, il nous disait, voilà, le texte, là, cette première phrase, tu l'as fait assis devant la table, ensuite tu te lèves quand Monsieur Jombia arrive, ensuite quand Martin il est là, quand il se met à gueuler, tu te mets à courir autour de la table, vous voyez. Ensuite, quand on avait les places, on tournait. Et ça durait de 9h à 18h.
Et c'était tous les jours, ça, ou pas ?
C'était tous les jours. A priori, ça dépendait après. Il y avait des jours qu'on pouvait avoir off parce qu'on n'avait pas de sketch ce jour-là. La plupart du temps, ils nous faisaient venir quand même pour beaucoup de sketchs, mais ça pouvait arriver de venir pour un ou deux sketchs. C'était très rare. Ça plus pour les petits rôles. Mais pour nous, c'était très rare parce qu'ils s'arrangeaient toujours pour qu'on ait plus de... Évidemment, nous payer pour que ce soit le plus économique pour eux. Et on passait de l'étage au rez-de-chaussée où il y avait la cour et les boîtes aux lettres. Dans la journée, on se baladait entre les deux selon les sketchs. Et on tournait à peu près l'équivalent d'un mois et demi, deux mois par saison. Donc au printemps, un mois et demi, deux mois. Et à l'automne, un mois et demi, deux mois. Donc on ne tournait pas toute l'année, en fait. On faisait des sessions très, très denses, mais ce n'était pas des grosses sessions. Donc en vrai, on était assez tranquille le reste de l'année.
Comment est-ce que vous avez réagi quand vous êtes arrivé la première fois dans le décor ?
Moi j'ai trouvé ça super parce que j'avais déjà tourné dans des décors dans une série pour TF1 déjà qui s'appelait Seconde Chance, qui était vraiment, il y avait des gros décors, on était dans une, tout était en décor, mais c'était, il y avait un décor de maison, il y avait un décor de grande agence de pub, donc j'avais déjà vu ce que c'était, des gros décors qui sont pas des décors naturels, qui sont des décors construits, et là évidemment il y a... En fait, moi, j'avais fait de la figure il y a longtemps sur Plus belle la vie, et déjà, j'avais vu les décors du Mistral, etc. Et moi, ça m'étonne toujours de voir à quel point on est dans un vrai truc. C'est-à-dire que nous, les boîtes aux lettres, le sol de la cour, enfin, tout était vrai. Enfin, je pense que c'est des matériaux un peu, pas tout à fait, c'est pas des grosses briques et tout, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. On se croyait vraiment dans un ascenseur. Enfin, je veux dire, c'était des vrais trucs, quoi. Alors, l'ascenseur ne marchait pas vraiment, mais on était vraiment dans un immeuble.
Est-ce que vous auriez une anecdote de tournage à nous raconter ?
Oh, franchement, il y a tellement eu de trucs. Moi, j'ai eu plein de bouffe. On m'a fait manger plein de merde. Si je me souviens, une fois, on m'avait un enfer. On m'avait agrafé un sketch qui est très drôle, qui est dans l'ascenseur, où Monsieur Martin Lamotte, donc Monsieur Lambert, veut me dire un truc sur mon look, et moi je lui fais genre non mais c'est bon, vous n'allez pas m'apprendre à me faire un look, je connais, je suis beau gosse et tout. Et en fait après je me retourne et on voit qu'il voulait juste me dire que j'ai une part de pizza collée dans les cheveux. Et c'était dégueulasse à jouer parce qu'en fait ils m'ont vraiment accroché avec une épingle à cheveux, enfin même plusieurs épingles, ils m'ont vraiment accroché une part de pizza dans les cheveux et c'était vraiment, j'avais envie de vomir quoi. Mais le résultat est drôle. J'ai eu plein de trucs comme ça, on faisait bouffer des cassoulets froids, enfin j'ai eu des trucs vraiment, comme mon personnage était le plus dégueulasse, j'ai eu vraiment des trucs dégueulasses quoi.
Comment est-ce que vous réagissiez face au succès de cette série qui atteignait chaque soir entre 5 et 9 millions de téléspectateurs?
On a même fait 12 millions un soir où il y avait un match de foot. On a fait et c'était vraiment 12 millions pour nous parce qu'ils partaient pour la pub, ils allaient sur d'autres chaînes et ils revenaient pour nous. Comment on a réagi? C'était très bizarre parce que du jour au lendemain, on est devenu nos têtes sont devenues connues. Et moi, j'étais persuadé qu'en fait, comme le personnage, je trouve, ne ressemble pas du tout dans la vie, enfin dans son caractère, j'étais persuadé, mais vraiment, que on n'allait pas me reconnaître. Je me disais non, mais ça va. Déjà, je pensais pas, personne d'ailleurs pensait que ce serait un succès, un tel succès. Parce qu'en plus, il y avait déjà eu, je crois, des émissions sur TF1 de sketch et ça marchait pas. Donc, je m'étais dit, bon, bah, on va faire le truc et puis ça a duré un mois et puis après, ils vont arrêter la série. Et donc, on s'attendait pas et vraiment, moi, je m'attendais. J'étais persuadé que j'allais passer inaperçu quand je serais habillé en moi. Sauf que, j'ai les mêmes cheveux et j'ai la même voix et j'ai la même gueule. Donc, en fait, je m'en suis rendu compte peut-être 10 jours après le passage, la première diff, parce que c'était en juin et je suis parti en vacances. Et là, j'ai vu une maman, mais vraiment pas une ado, une maman, me prendre en photo, l'air de rien, dans le métro. Et ça m'a choqué parce que je me suis dit, tu peux demander, mal élevé, quoi. Et en plus, c'était une maman. Donc, c'est pas normalement, c'est pas la cible, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, ça m'a étonné et du coup, j'ai compris là. Et après, on en a parlé avec les autres. Ils ont dit, mais c'est ouais. C'est pendant ce premier été où on s'est rendu compte que vraiment, et ça a été de pire en pire, de plus en plus. C'est un peu étrange, hein, c'est un peu étrange quand ça vous arrive parce que ça fait un peu comme un phénomène de, comme si on faisait une télé-réalité, quoi. Parce qu'en plus, TF1, c'est une chaîne, surtout encore à l'époque, hyper regardée. Et vraiment tout le monde. Je suis allé en vacances à New York, je suis allé en vacances en Thaïlande je veux dire ça fait 10 ans. Et à chaque fois des Français m'ont reconnu là-bas. Donc du coup, s'il y a un côté étrange quoi. C'est agréable parce que ça veut dire que ça a du succès et en plus les gens sont toujours très sympas. Ça aussi ça m'avait étonné parce que j'aimais pas trop ce personnage, je le trouvais drôle à jouer mais je trouvais que c'était un connard. Et en fait les gens l'adorent. Les gens, pour eux, c'est comme un voix. Ils me connaissent, mais comme si j'étais dans leur immeuble. C'est très bizarre. C'est marrant.
Puis moi, qui regardais cette série, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression que vous étiez vraiment nos voisins. Et puis à force presque de vous voir à table avec nous, c'était vous étiez dans la famille. C'était quelque chose.
C'est ça. Mais moi, j'ai une anecdote là-dessus. Une fois, j'étais au Monoprix, pour tout vous avouer. Et il y a une caissière, j'ai demandé un truc à une caissière, donc bonjour, excusez-moi, hein, polie quoi, enfin, à la Jean-Baptiste, pas à la Alex. Et elle a commencé à me répondre en me vouvoyant, en étant très polie, et j'ai vu son regard vriller, elle m'a reconnu. Et là, elle est passée au tutoiement, Et elle m'a parlé pas mal, mais comme si vraiment j'étais le petit voisin qui fait des fois des conneries et que bon, elle est marrante, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un truc qui a vraiment vrillé, et je l'ai vu dans son regard. Et elle est passée du vouvoiement au tutoiement. C'est très marrant. Et vraiment, c'est ça que ce personnage, voilà, ça fait quand même quelques temps que ça passe quasiment, enfin beaucoup moins, ça passe un peu sur le TMC, etc. Mais ça passe beaucoup moins, donc ça le fait moins. Mais vraiment, à l'époque, il y avait un truc de très étrange avec ce perso, mais qui est en même temps qui est sympathique, parce que vraiment j'ai jamais eu de truc désagréable, etc. C'était plutôt un truc de comme le petit de l'immeuble, quoi.
Et donc cette série s'est arrêtée en 2017 quand la série, quand la fin de la série a été annoncée. Film pour le cinéma avait été évoqué. Est-ce que non, c'est quelque chose qui a été oublié?
Ça avait été évoqué. Je vais vous raconter l'histoire. C'est que nous, on voyait que ça allait peut-être arrêter, avec Joy, on a eu l'idée d'un scénario. Donc on a vu les producteurs à l'époque, parce que les producteurs ont changé plusieurs fois. On les a vus pour leur proposer un pitch d'un truc. Donc ils nous ont écoutés gentiment. Et finalement après ils nous ont dit non mais ça va pas le faire, etc. On va certainement faire un téléfilm. Et on a dit si vous voulez, on vous offre le pitch. C'était un truc un peu, on avait réfléchi, quoi. Mmh. On vous offre l'idée. On veut pas de droit, etc. C'est juste, voilà, on veut que ça se passe. Donc, si vous galérez, on peut vous donner c'était une idée, mais il y avait peut-être d'autres trucs. Mais bon, c'était juste pour que ça avance avant qu'il soit trop tard. Et en fait, finalement, rien ne s'est jamais fait. Alors que, par exemple, Caméra Café, ils avaient fait deux films qui ont très bien marché. Et que tout le monde nous a demandé, et là ça s'est calmé, mais pendant des années on nous a demandé, mais alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est arrêté, ça marchait bien et tout. Les gens vraiment, et tout le monde, enfin vraiment, on a eu beaucoup beaucoup de gens qui comprenaient pas pourquoi ça s'arrêtait, et pourquoi il y avait pas de téléfilm, ou même le public nous demandait pourquoi vous faites pas un film, etc. Et on n'a jamais compris pourquoi ils ont pas voulu ni faire de film, alors qu'en plus on avait trouvé un producteur, donc il y avait pas de... Et ni faire de téléfilm. Donc en fait, personne de l'équipe n'a compris pourquoi ça s'est fini et comme ça, quoi, en autre boudin. On n'a pas compris. Et ça, c'est les mystères de la télé. Des fois, ils arrêtent des trucs, on comprend pas.
Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui marchait énormément, qui avait un carton fou, et du coup, il n'y a pas eu vraiment de vraie fin à part la série.
Non, pas du tout. Nous, il y a vraiment pas eu de fin, parce que nous, on a appris que finalement ça s'arrêtait par mail, donc on n'a même pas pu faire de fête, une dernière fête ou un dernier pot, etc. Les décors étaient détruits à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très étrange cette fin. Très étrange, mais bon. Je vous dis, les trucs télé, des fois, c'est un peu étrange.
Alors, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, Jean-Baptiste, vous êtes aussi auteur, compositeur et interprète, et depuis le début de cette émission, c'est vous qui choisissez les musiques que nous écoutons. Quelle est la deuxième musique que vous avez choisie?
Alors, j'ai choisi une démo. C'est une chanson que j'ai écrite et composée et chantée, etc. C'est une démo, donc c'est pas ce qui va sortir quand ça sortira. Ce sera plus propre, ce sera encore mieux chanté. Et c'est une chanson qui s'appelle La Forêt.
Eh bien, on écoute La Forêt tout de suite sur Just for Fun. À tout de suite.
Tu peux toujours m'apprendre la prudence. Je suis né trop impatient pour attendre. Ce matin je m'éloigne, je prends ma chance. J'ai confiance en l'aube pour veiller me défendre. Je me tiens là devant, et si ça transforme, je prends foi, ce serait l'élégant. tu redoutes les flammes qui rallument. Tu t'enfermes tant derrière tes remparts. Si je me refuse à tes coutumes, si c'est te détruire, je préfère le départ. Je me tiens là devant, et tout se transforme. Je prends forme, tout se révèle dans. Je me tiens là. Je suis né trop impatient pour attendre.
Nous sommes de retour sur Just for Fun dans l'émission En tête à tête avec, et c'était La Forêt de Jean-Baptiste Chelmerdine, et c'est aussi mon invité aujourd'hui. C'est déjà la troisième partie de cette émission. Jean-Baptiste, vous êtes actuellement au Théâtre des Variétés à Paris. Vous jouez dans la pièce La famille et le potager. De quoi parle cette pièce ?
Alors, ça parle d'une famille très très riche, mais un peu étouffée par leur argent et par le poids de leurs ancêtres. En fait, ils ont des ancêtres qui étaient des grands hommes d'affaires, mais complètement pourris. Et eux, ils voudraient bien faire le bien autour d'eux. Donc, ils essayent un peu de faire le bien autour d'eux, sauf que des événements arrivent durant la pièce. Qui vont mettre à mal leur envie de. C'est compliqué à résumer sans dire ce qui se passe, parce qu'il se passe vraiment, vraiment des choses hyper grosses. Mais en gros, au départ, c'est une famille très névrosée, très gentille, très riche et très névrosée. Et on attend ma fiancée qui sort de prison. Donc voilà, moi je lui donne de l'argent pour qu'elle aide les migrants. Et sauf qu'elle était en prison à cause de ça. Et là, on l'attend impatiemment. Et en fait, ça va pas se passer comme prévu. Et il y a 3 actes, et c'est très drôle. Et un peu d'humour noir. Et on est 6 comédiens. Et c'est super.
Bah, si vous voulez.
Il y a des très beaux décors, et voilà.
Et puis, si vous voulez en voir plus, allez au Théâtre des Variétés à Paris. Et en tout cas, ça donne envie,
Franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. Et y a vraiment des rebondissements. Et du coup, c'est marrant, quoi.
Ça fait quoi de jouer aux côtés de Marianne Chazelle et de Régis Laspalès?
Bah, franchement, déjà, ils sont adorables. Donc, ça, c'est pas que ça m'a étonné, parce qu'ils n'ont pas une image dans les médias de gens pas sympas. Mais moi, je m'attends toujours au pire quand je joue avec des gens connus, vraiment connus. Parce que je me dis toujours, on ne sait jamais, il y a l'ego, il y a des trucs comme ça. Bon. Et vraiment, ils sont adorables. En plus, ils jouent mes parents, donc c'est drôle. Et puis, ils ont vraiment du métier. C'est-à-dire que moi, je les regarde jouer. Parce qu'en plus, moi, j'ai très peu fait de théâtre. Et je les regarde jouer parce que... Non, maintenant, je joue avec eux. Mais je veux dire, pendant les répètes, ils trippent en les regardant jouer parce que parce qu'ils ont 40 ans de métier, que c'est quand même des grands, grands comédiens de comédie. Et c'est intéressant parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de jouer... surtout la comédie, c'est difficile de jouer de la comédie. C'est plus difficile que jouer du drame parce que faire pleurer, on peut... juste en bougeant pas et en faisant une voix un peu comme ça, qui est prise par un peu les sanglots, on peut émouvoir. Alors que faire rire, c'est tout, il faut le texte, il faut une situation, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et au théâtre, c'est encore complètement différent de faire rire à la caméra. Et je suis en train de me dire, putain, mais je parle trop, son émission, elle va faire 2 heures.
Pardon. Pas de souci.
Et donc, eux, ben, ils connaissent la scène depuis très longtemps. Marianne, elle a commencé avec le Splendid dans les années 70, Régis dans les années 80. Et du coup, j'apprends à leur contact comment placer un effet, j'apprends vraiment des choses qui me sont très utiles.
Et comment s'est passée la préparation de cette pièce?
Voilà, ça a été en plusieurs fois, parce qu'il y a un an et demi, en fait, moi, j'ai fait une lecture avec Marianne sur une autre pièce, où j'avais un petit rôle, et Marianne m'a bien aimé. Et du coup, en même temps qu'on a fait cette lecture de cette pièce qui ne s'est pas faite, qui ne s'est pas montée, elle lisait la pièce La famille potager qu'on joue en ce moment, que Bob Martel avait écrit pour elle. Et elle voyait qu'elle avait un fils dedans, et elle a tout de suite pensé à moi, parce qu'elle venait de faire une lecture avec moi sur une autre pièce. Donc, on me l'a proposé. J'ai fait une lecture avec elle et Régis et Anne Bourgeois, la metteur en scène, qui faisait, pour le coup, dans la lecture, les 3 autres comédiennes, parce qu'elles n'avaient pas été encore choisies. Ensuite, on s'est vu en juin de l'année dernière pour qu'on parle du rôle avec la metteur en scène, parce qu'elle n'aimait pas... Elle trouvait que ce que j'avais fait à la lecture ne correspondait pas à ce qu'elle attendait. Donc, elle m'a expliqué le rôle. Elle m'a dit, on n'a pas pu se parler avant. Donc, là, il faut que je t'explique le rôle. Il faudra qu'on rebosse ensemble avant de refaire une lecture avec tous les comédiens de la pièce pour voir si ça va. Donc, on a rebossé ensuite 6 mois après. En fait, c'est très long parce qu'il y a eu l'histoire du Covid. Donc, tout a pris un temps fou. Au lieu de prendre 6 mois, ça a pris un an et demi. Ça a pris très longtemps. Et du coup, on a rebossé avec elle et moi, et on a trouvé le personnage, parce que c'est un personnage un peu compliqué, parce que très névrosé, parce que écrasé par ses parents, etc. Donc, il fallait vraiment trouver le bon ton. Et ensuite, on est rentré en répète. À partir de mai, on a fait 2 sessions, une session de mai jusqu'à mi-juin, où on a coupé des choses de la pièce, on a essayé de rendre le truc plus... Parce qu'entre une pièce qui est écrite et une pièce qu'on commence à jouer, il y a toujours des choses qui changent, il y a des choses qui ne marchent, qui marchent à l'écrit, mais qui ne marchent pas quand c'est joué. Donc voilà, on a fait 3 semaines comme ça de répète avec des coupes, et ensuite on s'est revu à partir de mi-août, où là on a vraiment répété dans les décors, et Dieu sait s'ils sont importants, et dans la vraiment sur la scène du théâtre des variétés, sur la grande scène, quoi.
Et cette pièce, vous la jouerez que au théâtre des variétés, ou il y aura une tournée après?
Non, normalement il y aura une tournée. Là pour l'instant c'est trop tôt pour la valider, pour vous dire dans quelle ville, etc. Mais a priori, ce genre de pièce, que c'était une très grosse pièce et qui vraiment marche bien, il devrait y avoir une tournée.
Bah tant mieux.
Ouais.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a une partie de vous que l'on connaît moins, Jean-Baptiste. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Est-ce que la musique, c'est quelque chose que vous aimeriez développer?
Oui, bien sûr. Moi, j'adore même écrire. J'adorerais même, pourquoi pas, essayer d'écrire pour d'autres. Donc je normalement, mais maintenant je ne dis plus rien parce que là, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Normalement, je dois enregistrer un EP après la pièce, justement, en janvier, avec mon arrangeur, on a déjà pris rendez-vous. Et donc, ce sera entre 3 et 5 titres. Et puis, à ce moment-là, je vais voir si ou je le sors tout seul, ou j'essaie de trouver un label qui me correspond et dont j'aime la ligne artistique. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, oui, c'est un projet. J'ai déjà l'album qui est maquetté. Donc là, les démos qu'on a pu entendre, c'est des chansons c'est des maquettes pour faire un album. Mais j'adorerais, bien sûr. Avant de vouloir être comédien, je griffonnais des trucs, j'écrivais des chansons. Depuis que j'ai 10 ans, ça m'intéresse, en fait. Donc j'adore. Si ça marche pas, je m'en fous, parce que c'est un grand classique des comédiens. Il y a beaucoup de comédiens qui veulent être chanteurs ou qui font de la musique et puis qui sortent ou pas leur truc, mais qui écrivent pour le plaisir. Moi, c'est un vrai plaisir d'écrire, d'être sur mes synthés, mes trucs, d'écrire des paroles, d'écrire de la musique. J'adore ça. Donc, quoi qu'il arrive, je continuerai comme un hobby. Et puis, si ça devient un vrai truc, ça bien, mais ouais.
Où est-ce qu'on peut les retrouver, vos musiques?
Alors, il y a une musique qui est une chanson qui est sur iTunes, qui est donc la reprise de Mimi Kravitz. Et sinon, les autres, juste sur SoundCloud pour l'instant, parce que, je vous dis, c'est que des démos, donc c'est des maquettes, donc je les ai pas sorties sur iTunes. Quand ce sera prêt, ce sera sur iTunes, etc. Et si j'ai signé dans un label, ce sera peut-être même en CD, ouais. Un truc solide, je peux commander.
Oui.
Mais pour l'instant, c'est ça en club.
Est-ce que vous avez des envies futures?
Franchement, ces deux années de Covid ont fait que je me suis vraiment mis au théâtre. J'ai fait une mise en scène aussi d'une comédie qui s'appelle Mélodie Fontaine, dont j'ai coécrit le One Woman Show, qui est extrêmement drôle. Et c'est d'ailleurs la seule que j'ai accepté d'aider. Je lui ai même dit, écoute, meuf, il faut que tu retournes sur scène. Parce qu'elle avait fait un premier one-woman show où elle racontait c'était des trucs sur les animaux. Et je lui ai dit, t'as tellement d'histoires drôles de ta vraie vie, il faut absolument que tu ailles sur scène avec tes histoires. Et si tu veux, je t'aide à écrire. Ça, c'est la première fois que je fais ça. Et elle m'a dit, ok, mets-moi en scène. Et ça, c'est à la petite loge dans le 9e. Donc, il y a ce truc-là qui finalement m'a plu. Alors que je voulais pas le faire, et j'ai un autre pote qui m'a demandé de l'aider pour une lecture, et en fait la mise en scène ou en tout cas la direction d'acteur, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le théâtre, finalement, ça me fait bien, j'ai l'impression, c'est cool, on me dit que je suis bien, je m'en sors bien, et moi ça me plaît. Et donc du coup, en fait, je voudrais continuer à ça, c'est-à-dire tourner, faire de la musique, faire de la mise en scène ou des trucs comme ça, jouer au théâtre. Et j'ai un scénar aussi que j'ai coécrit de comédie qui est prêt, et ça j'aimerais bien aussi qu'on trouve un producteur. Mais donc en fait voilà, je voudrais avoir l'éventail qui s'ouvre et que tout marche.
Eh bien je vous souhaite de réaliser tous vos projets, en tout cas Jean-Baptiste, et ça m'a fait très plaisir. Merci. De vous recevoir dans cette émission, c'était un super moment et j'ai adoré.
Bon, merci moi aussi.
Est-ce que quelle est la dernière musique que vous avez choisie pour cette émission?
Alors donc cette dernière musique qui sera normalement, si l'album sort un jour, ce sera certainement le dernier morceau de l'album, puisque ça s'appelle puisqu'il faut bien s'en aller. Donc c'est une démo, c'est une maquette encore une fois, voilà. Et voilà. Quoi dire d'autre? C'est une maquette, donc le son, il est pas fou. Mais moi, j'aime bien l'atmosphère qu'elle a. Il y a un truc un peu de fin du monde, un peu de, ça y est, quoi. Tout le monde est parti, il reste plus personne. Et c'est un peu ce qui va se passer à la fin de cette émission. Les gens vont aller vaquer à leur occupation et à leur vie.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir accepté d'être mon invité.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci beaucoup et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous durant cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast des Halles dès la fin de cette émission sur notre site internet www.justforfunwebradio.fr. Vous pouvez aller aussi faire un tour sur nos réseaux sociaux, justforfun-off sur Instagram et Facebook, justforfun avec un 4. Et à très bientôt pour de nouvelles émissions.
Gardez loin des adieux, je me retire.